Nous allons voir la fin de la vie d'un des plus grands rois de Juda, le roi Ézéchias. Il est après David, le plus grand roi qui ait régné sur Juda, le royaume du Nord, à l'exception de son petit-fils qui va arriver par la suite et dont nous parlerons, le roi Josias. Mais c'était un très grand roi. Nous avons vu la semaine dernière comment il se tournait vers Dieu lorsqu'il était confronté à des problèmes, à des difficultés. Et nous avons parlé la semaine dernière de l'importance vitale de la prière. Souvent pour nous la prière c'est le dernier recours, alors que ça devrait être notre premier réflexe. Nous avons aussi parlé de l'analogie du chef militaire assyrien appelé le Rabshakeh, c'était son titre, avec notre ennemi Satan. Et nous avions fait remarquer que le Rabshakeh voulait nous intimider avant que nous... Il voulait intimider les habitants du royaume de Juda avant même qu'ils aient commencé le combat. Et de la même façon, Satan veut nous empêcher de combattre. Il veut simplement nous intimider. Il est le grand intimidateur. Il est... Pierre parle de lui comme un lion qui cherche à dévorer. On sait aussi qu'il peut être comme un serpent. On a vu que dans la Genèse, il apparaît aux hommes sous la forme d'un serpent qui trompe Adam et Ève. Et on avait remarqué qu'en fait, Satan voulait à tout prix nous éviter de nous emparer de la prière. Comme une arme redoutable. Contre lui, il n'a pas de chance contre la prière des saints, contre la prière de ceux qui appellent Jésus leur maître et leur sauveur. Et certes, nous pouvons être attaqués, nous pouvons être assiégés par Satan, alors pas directement toujours par lui, mais par ses envoyés démoniaques, aussi par le fait qu'il a un monde, un système de valeurs dans lequel nous vivons autour de nous, qui rejette Dieu, et ce système de valeurs contre Dieu fait toujours appel à notre vieille nature qu'on appelle la chair, notre vieille nature qui est notre tendance à satisfaire nos besoins en dehors de ce que Dieu a prévu pour nous, un Dieu qui nous aime pourtant. Et ce roi Ézéchias, nous avons vu comment le Dieu lui avait donné la victoire, une victoire miraculeuse sur les Assyriens et le roi Sennachérib qui était venu assiéger la ville de Jérusalem, la capitale du Nord. Et il y avait un miracle. En une nuit, l'ange de l'Éternel avait frappé 185 000 hommes, ça fait à peu près la moitié de la population de Nice. Et du jour au lendemain, ils étaient tous morts, mystérieusement, miraculeusement. Et le roi était rentré dans son pays, à Ninive, et là il avait été, 20 ans plus tard... La prophétie qui avait été reçue par le prophète s'était accomplie. Il était mort, assassiné par ses fils. Et puis c'est son fils Esar-Hadon qui a régné à sa place. Et il est dit au verset 1 du chapitre 20, lisez avec moi. « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. » Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant « De grâce, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit des pleurs abondants. Arrêtons-nous ici. Donc, à ce moment-là, après cette victoire sur les Assyriens, cette grande délivrance miraculeuse, qui était une réponse aux prières, encore une fois, du roi Ézéchias devant le Seigneur, il se trouve qu'il a 39 ans, à peu près, on pense, et il est malade à la mort. Ça veut dire que normalement, il doit mourir très prochainement. Et le prophète, alors que ce roi est très malade, malade comme un chien, on ne sait pas exactement quelle est sa maladie, mais le prophète vient l'encourager, entre guillemets, et lui dit, voici ce que Dieu te fait savoir, tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Et il lui dit, donne tes ordres à ta maison. Autrement dit, mets ta maison en ordre, prépare-toi, mets de l'ordre dans tes affaires, parce que tu n'en as plus pour longtemps. Alors je sais que parmi nous, on en a certains qui aiment bien visiter, rendre visite aux malades dans les hôpitaux ou chez eux et les encourager. Ce n'est pas le genre de révélation qui va guérir la personne généralement. Et on est là encore confronté à la mort. On va voir que Ézéchias va plaider le Seigneur pour qu'il lui donne plus de temps. Et c'est vrai que on est tous, surtout dans notre société, à court de temps. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui s'ennuient souvent. Les enfants, pendant les vacances, quand j'étais petit, on allait voir nos parents, on disait « Maman, papa, je m'ennuie. » Mais ça fait longtemps que je ne me suis pas ennuyé. J'imagine que si vous êtes actif, si vous êtes dans la vie d'adulte, ça fait longtemps que vous n'êtes pas ennuyé. Et au contraire, on est tous à rechercher du temps, à gagner du temps, à essayer de gérer notre temps, à ne pas trop perdre de temps en regardant Facebook, en faisant des tas de choses qui sont des consommateurs de temps. On a tous ces 24 heures et la Bible Dieu nous encourage à racheter le temps, à l'utiliser au mieux, à servir des priorités qui soient justes, à trouver nos bonnes priorités. Et c'est vrai qu'on peut se demander si Dieu venait nous dire, Pierre, tu as 15 ans, où on verra par la suite, Dieu va lui donner un temps, mais si on savait qu'on allait mourir rapidement, qu'est-ce qu'on changerait dans notre vie? Et ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on passerait plus de temps avec nos proches, avec notre famille, plutôt qu'à essayer de devenir riche, fameux ou instruit? Quels seraient les changements qui s'opéraient dans notre vie? Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, nous allons tous mourir. Donc les changements auxquels vous pouvez penser en vous disant que qu'est-ce que je changerais si j'allais mourir bientôt, nous ne savons pas quand nous allons mourir. Ézéchias va être une exception à cette règle, mais la mort c'est inéluctable. La mort, c'est, Paul l'appelait, le dernier ennemi. 1 Corinthiens 15, 26. Et Dieu merci, par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, la mort a été vaincue. Nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous qui lui faisons confiance, nous qui le suivons dans notre vie, la mort n'aura pas le dernier mot. Et la mort, ça peut être, c'est pas la fin, c'est le début, soit d'une vie avec Dieu, c'est ce que la Bible parle sous le paradis ou le ciel, soit le début de la vie en enfer. Nous n'allons pas être annihilés comme certains le prétendent. La Bible nous enseigne que l'âme continue de vivre, soit auprès de Dieu, soit éloignée de Dieu pour toujours. La mort, elle est inévitable. Chaque année en France, il y a 550 000 personnes qui meurent. Ça en fait 18 300 par mois, ça en fait 1 500 par jour. Ça en fait 63 par heure, à peu près 1 par minute. Depuis qu'on a commencé à parler, j'ai commencé à parler, une dizaine de personnes sont décédées. C'est inéluctable, c'est terrible. Si on regarde dans les statistiques du monde, c'est 15 millions de personnes qui meurent chaque année, 1 200 000 par mois, 40 000 par jour, 1 666 par heure, 27 par minute. Presque une personne toutes les 2 secondes. Et parmi ces 1 666 personnes qui meurent dans le monde, il y en a 367 qui se réclament du christianisme. Et cela, parmi ceux-là, il y en a sans doute qui ne sont pas vraiment sauvés. Mais il y en a 1289 qui vont en enfer. Chaque heure. La mort, c'est rappelé tous les jours, à notre bon souvenir, par les médias. Les titres dans les journaux, c'est toujours le nombre de morts à tel endroit, tel attentat, tel accident. Nous-mêmes, nous côtoyons la mort parmi nos proches, dans la maladie, dans les accidents. Alors c'est vrai que, là j'ai dit que Ézéchias plutôt avait 39 ans. Vous dites c'est pas très âgé. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, si vous naissez en 2012, si vous êtes un homme en France, vous allez normalement vivre jusqu'à 78 ans en moyenne. Donc il y en a qui mourront très jeunes, puis d'autres qui iront au-delà de 100 ans. On a une voisine dans notre immeuble, au 7 boulevard de Magnan, qui vient de fêter ses 99 ans. Elle fait exploser les compteurs. Les hommes, c'est 78 ans, et les femmes, mesdames, vous avez plus de chances ou plus de longévité, 85 ans. C'est beaucoup. Par rapport à ce que c'était au XVIIIe siècle, peu d'entre nous seraient encore ici. L'homme, son espérance de vie, c'était 27 ans, et la femme, c'était 28 ans. Et c'est vrai qu'on entend parler des romanciers, des scientifiques qui vivaient à ces époques, mais c'est vrai qu'ils venaient de milieux privilégiés où ils n'avaient pas à travailler dur, à être mal nourris, mais en moyenne, la vie était très brève. Mais qu'on vive 30 ans ou 70 ou 110 ans, la vie reste brève. C'est déjà le retour des vacances. Il me semble que le mois de juin, c'était hier. D'ailleurs, j'ai oublié d'annoncer, dimanche prochain, on vous présentera, Francis, Mappy et Anne vous présenteront le film tourné par les jeunes au mois de juin. Mais ça paraît quelque chose de juste quelques semaines. Quand j'étais enfant, je me rappelle que les vacances, c'était long. C'était comme un océan, ça durait très longtemps. Et c'est vrai que le temps s'accélère. Alors on peut avoir des explications biologiques, dire qu'en fait, ce qui compte, le temps, c'est pas le temps de l'horloge, c'est pas l'horloge, mais c'est notre horloge interne. Et si on fait nos rythmes biologiques se ralentissent par rapport à l'enfance, en une heure, au lieu d'avoir 150 battements de cœur, on en a plus que 60. Une heure paraît plus courte parce que notre sensation, notre perception, elle est basée sur nos perceptions biologiques essentiellement. Peu importe, on a tous rendez-vous avec la mort. Et de façon brutale, le prophète Ésaïe vient dire à Ézéchias, tu vas mourir bientôt. Verset 2, Ézéchias tourne son visage contre le mur et prie l'Éternel. Un bon réflexe, on l'a dit, quand on a une mauvaise nouvelle, déballez-la devant Dieu, pas pour lui apprendre, puisque c'est Dieu qui le fait savoir, donc Dieu savait déjà cette nouvelle. Et il plaide devant Dieu, il en appelle à la grâce de Dieu, cette faveur qu'on ne mérite pas, en lui disant « Souviens-toi que j'étais une bonne personne, entre guillemets. J'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et puis il se met... Une autre traduction possible serait « il se mit à chialer comme un gosse ». Il se répandit en pleurs abondants. Il pleure. Ce n'est pas une mauvaise chose de pleurer, même pour un homme. On a appris dans notre société que les hommes sont costauds, durs. C'est féminin de pleurer. C'est drôle, j'étais à une conférence il n'y a pas longtemps, où l'un des fondateurs du mouvement de Jésus pour les jeunes, du mouvement de Jésus dans les années 60 en Californie, le pasteur Chuck Smith, s'est adressé aux conférenciers en leur disant « Voilà, il vient de découvrir qu'il avait un cancer contre lequel il se bat, apparemment avec de bons résultats. » Mais il était visiblement très ému et sa voix a une ou deux fois craqué et on avait l'impression qu'il allait se mettre à pleurer, ce qu'on pouvait comprendre. Il n'était pas sûr de pouvoir être présent à cette conférence et c'était peut-être, si la maladie ne le lâche pas, ça peut être peut-être sa dernière conférence. Et tout le monde était un peu surpris parce que ce n'est pas le genre d'homme justement à se livrer à ce genre d'épanchement. Et occasion où il pouvait nous parler, il nous a dit en fait que c'était la faute de ce médicament qui le rendait très émotif et que ça l'énervait beaucoup parce qu'il avait toujours détesté les hommes qui pleuraient. Il avait trouvé que c'était quelque chose de féminin, que c'était pas macho, c'était les femmelettes qui se laissaient aller aux pleurs. Mais suivant l'émotion que vous ressentez, si on vous dit que vous allez mourir, il n'y a rien de mal à dire « Seigneur, ce n'est pas une bonne nouvelle » et de le manifester par des pleurs. Et on peut trouver que sa plaidoirie est un peu bizarre, c'est un peu de la vantardise. Il dit qu'il a marché devant Dieu du mieux possible, qu'il a fait la volonté, il a fait ce qui est bien aux yeux de Dieu, et ça, pour nous, c'est un peu de la vantardise. On dit, mais qui peut se le dire ainsi? Qui peut se prévaloir de ses bonnes actions de cette façon? C'est vrai qu'avec la nouvelle alliance instituée par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, nous sommes bénis non pas sur la base de nos œuvres, mais sur la base de notre foi en Jésus. C'est un, c'est la révélation de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, c'est quelque chose d'essentiel. C'est Christ, et Paul nous dit dans Galates 3, 13 et 14, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », afin que pour les païens la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. » Dieu avait promis à Abraham de bénir sa descendance et aussi à travers elle toutes les nations de la terre. Mais à l'époque, c'était sur la base de l'obéissance que les hommes étaient bénis. On obéissait à la loi, on était béni, on désobéissait à la loi, on était maudit. On peut lire ça dans le Lévitique 26, dans le Deutéronome 28. Et donc, en fait, c'est souvent quelque chose que l'on a un peu de mal à faire lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, c'est de se mettre à la place des gens qui agissent et qui interagissent avec Dieu et les hommes en réalisant les limitations de leur connaissance. Nous, on a la Bible en entier et on sait que ce n'est pas les œuvres de la foi, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais c'est la foi qui nous sauve, la foi en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et dont le sacrifice a été accepté comme Dieu l'a prouvé en le ressuscitant d'entre les morts. Et ce roi Ézéchias, il faisait ce qui était normal et ce qui était logique à son temps et dans l'étendue de la révélation qu'il avait de la volonté de Dieu. Verset 4, Ésaïe n'était pas sorti encore de la cour centrale du palais lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. » Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Dieu répond à la prière. C'est pour ça que Satan veut tout faire pour nous éviter d'utiliser l'arme de la prière. Et Dieu peut répondre en prenant son temps à nos prières. Dieu répond oui, Dieu répond non, Dieu répond pas encore, mais Dieu répond toujours à la prière. C'est nous qui sommes impatients, le temps de Dieu est le juste temps. Et il lui dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Un autre passage nous dit que Dieu met nos larmes dans un flacon. Alors je sais, pour certains, il faudrait plutôt une bonbonne, une dame Jeanne, comme on appelait les bonbonnes, un gros récipient, mais Dieu est sensible à nos larmes. Ça, c'était une tradition de l'ancien temps. On pouvait, les Romains avaient des petits flacons, ils pouvaient mettre leurs larmes. Pour rappeler un chagrin, c'est quelque chose, mais Dieu est sensible à nos sentiments, à notre cœur, et il lui dit, voici, je te guérirai. Ça va prendre 3 jours. Le troisième jour, tu seras en état de monter à la maison de l'Éternel. Et puis je vais t'ajouter 15 années. Donc tu iras jusqu'à 54 ans. Ce qui était âgé à l'époque. Et en plus, je vais protéger Jérusalem, le roi d'Assyrie ne la prendra pas. Ce n'est pas à cause de toi que je protège Jérusalem, mais c'est à cause de moi Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à son nom. Et aussi à cause de David, son serviteur, à qui il avait fait la promesse d'une descendance. Et on pense que, certains pensent que, en fait, c'est bizarre parce qu'il est dit que Dieu ne change jamais d'avis. Est-ce que Dieu a changé d'avis ? Non, certains disent que lorsque Dieu nous prévient, c'est souvent pour nous inviter à la repentance. Et donc, lorsqu'il lui dit tu vas bientôt mourir, c'est peut-être aussi justement pour l'inviter à la repentance. Il pouvait y avoir des péchés cachés. Cette histoire, c'est intéressant, elle est si importante qu'on la retrouve dans deux autres passages de la Bible. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 38, et dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 32. Et en lisant ces trois passages, on peut se faire une idée assez précise de l'ordre des événements, de ce qui se passait. Mais aussi, ça nous montre que c'est quelque chose que Dieu veut que nous comprenions bien. On va voir les leçons à tirer de cet épisode un peu particulier. Et donc, Dieu lui annonce, je te donne un sursis de 15 ans. Et là aussi, on peut s'imaginer, si Dieu vous disait, je te donne encore 15 ans, qu'est-ce que ça changerait dans notre façon de vivre ? Peut-être on dirait, oh, 15 ans, c'est un bail. Je verrai vers la fin, à la 14e année, là, je mettrai mes choses en ordre. Mais encore une fois, nous ne savons pas si nous avons 24 heures devant nous, si nous avons un an, si nous avons 2 ans, 7 ans, 8 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 60, 100, pour les plus jeunes d'entre nous. Et encore une fois, les changements, ce n'est pas à faire au dernier moment, c'est à faire dès maintenant. Et puis, on dit souvent que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Dieu lui a promis, verset 7, plutôt lui avait dit, « Je te guérirai ». C'était au verset 5. Et puis au verset 7, Ésaïe dit, « Prenez un paquet de figues. » On le prit, on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias resta en vie. Là, on voit que Dieu utilise aussi la médecine. Il peut guérir miraculeusement, où il peut guérir miraculeusement en utilisant la médecine des hommes. Et toute guérison, qu'elle soit sans aucun médicament, sans aucun traitement médicinal, ou qu'elle soit miraculeuse, plutôt avec ses produits, avec l'hôpital, avec la médecine, toute guérison est miraculeuse. Il suffit de regarder dans les rayons du soleil pour voir qu'en fait, on est au contact de tas de particules, de tas de microbes. On a un système immunitaire qui est prodigieux. Et les maladies les plus graves, c'est les maladies qui atteignent notre système immunitaire, comme la leucémie, souvent le cancer. Le fait que le corps ne sait plus attaquer les vrais ennemis et commence à attaquer ses propres cellules. Dieu ici lui dit d'utiliser un paquet de figues. Ça peut paraître un peu bizarre. Alors on ne dit pas comment est-ce que les figues étaient fraîches, est-ce qu'elles étaient sèches. Mais les figues, encore aujourd'hui, ont des vertus médicinales dans des cultures où on s'attache aux plantes. Toujours est-il qu'il est guéri et il reste en vie. Verset 8, Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel ?» Ézéchias, qui était un grand roi, qui avait fait plein de bonnes choses pour l'Éternel, montre un peu son incrédulité, son manque de foi. Il a besoin d'un signe pour être encouragé vraiment. Il demande au prophète Ésaïe, « Comment je vais savoir que je guérirai ?» et que le troisième jour, je serai assez en forme pour aller au temple. Alors Esaïe répond, ceci sera pour toi de la part de l'Éternel le signe que l'Éternel accomplira ta parole qu'il a prononcée, L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ? Ézéchias répondit, c'est facile de faire avancer l'ombre de 10 degrés, qu'elle recule plutôt de 10 degrés. Alors le prophète Esaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Ahaz où elle était descendue. Des fois, on est émerveillé par la patience de Dieu. Et si vous êtes sensible à votre propre péché, on est émerveillé par sa patience, par sa bonté, par sa grâce. Il a dit à ce roi, je vais te guérir, je vais te donner 15 ans. Et le gars lui dit, c'est bien beau tout ça, mais j'aimerais un signe pour vraiment être encouragé. Et Dieu condescend, lui l'infiniment grand, le créateur de toutes choses et de la terre, à lui donner un signe. On se rappelle qu'il y avait le roi Ahaz qui n'avait pas voulu de signe en prétextant qu'il était spirituel. Là, Ézéchias ne fait pas semblant d'être spirituel et d'avoir une foi qui croit Dieu à sa parole. Il lui demande un petit signe. Et Dieu a déjà prévu quelque chose, et par la parole d'Ésaïe, il dit voilà, il y a le soleil qui fait de l'ombre. Alors on ne sait pas si c'était un cadran solaire tel à destination, destiné à ce but en tant que cadran solaire, comme sur la plage, plutôt sur la promenade des Anglais, près du quai de Robacapéou. Il y a cet emplacement avec un grand cadran solaire et vous êtes invité à vous mettre au centre du cadran et à être le repère sur lequel le soleil va indiquer l'heure solaire. Ou peut-être c'était des degrés, ça fait penser aussi à des marches d'escalier. Peut-être qu'il y avait un escalier, toujours est-il que les gens du coin avaient l'habitude de repérer l'heure en fonction de cette ombre. Et Dieu, dans sa magnitude, dans sa magnanimité, plutôt sa grandeur d'âme et de son incroyable condescendance, son incroyable humilité devant sa création, dit « Tu veux que ça avance ou que ça recule ?» Alors il y a le roi qui se dit « En fait, avancer, c'est pas si difficile, la terre tourne dans un sens, elle peut peut-être accélérer un peu, mais j'aimerais bien que l'ombre recule. » Et en même temps, c'est vrai, c'est ce que Dieu était en train de faire avec cette promesse, lui donner 15 ans de plus, c'était comme retarder le moment de sa mort qui était initialement prévu pour bientôt. Et donc là aussi, Ézéchias dit, un magicien peut-être pourrait faire quelque chose pour savoir que c'est vraiment toi qui parles et que je peux te faire confiance et je peux faire confiance à cette promesse, à cette parole. Fais reculer l'ombre de 10 degrés. Alors on pense qu'en fonction des degrés, que ça devait représenter 45 à 50 minutes, peu importe. Dieu accomplit ce miracle. Et le roi Ézéchias est guéri. Alors dès qu'il y a un mystère, un miracle, les hommes veulent comprendre comment Dieu a fait ce miracle. Ils veulent démiracliser le miracle. Alors certains disent, sans doute, Dieu a dû freiner la terre et la faire retourner en arrière pendant un petit moment. Alors, il y a même des légendes urbaines qui circulent chez les chrétiens qui disent qu'en fait, il y a, à la NASA, on aurait trouvé, les ordinateurs auraient trouvé qu'il y avait une année qui manquait dans les calculs pour que ça colle et qu'il y avait le temps où, pour Gédéon, le ciel était. Le soleil avait suspendu son cours. Mais ça ne suffisait pas pour expliquer qu'il y avait ces 45 minutes qui étaient trouvées ici. Et en fait, les gens sérieux, les commentateurs sérieux disent qu'il n'y a en fait aucune vérité à cette légende urbaine. Et Dieu peut arrêter la terre, la faire tourner en arrière, c'est sa création, mais il peut tout aussi bien bouger les rayons du soleil. Ça paraîtrait être quelque chose de plus. Encore une fois, on se met à la place de Dieu et on veut lui faciliter la tâche. Ça serait plus facile à Dieu, avec un tour d'optique, de régler ce problème. Toujours est-il que ça a dû affecter non seulement Jérusalem, là où se trouvait Ézéchias, mais aussi la région alentour, parce que on a commencé à parler de ce miracle dans la région. Et on va lire à partir du verset 12 ce qui se passe par la suite. En ce même temps, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Donc soit c'est parce qu'il avait été témoin lui aussi d'un phénomène astronomique un peu bizarre, sur le simple fait que lorsque un des monarques voisins, des pays voisins, mourait, les nouvelles allaient très vite pour le faire savoir aux autres rois, aux autres empereurs, parce que il y avait toujours le risque de déstabilisation d'un pays, le risque d'une invasion, et donc on suivait les bulletins de santé, pour ainsi dire, des rois voisins. Et ce roi de Babylone, qui à l'époque était menacé par l'Assyrie, qui était le grand pouvoir de la superpuissance de l'époque, qui avait emmené le royaume du sud d'Israël en exil, on en a parlé en détail, c'était un pouvoir qui menaçait Babylone. Babylone, c'était la nouvelle superpuissance qui était en croissance. C'était une bébé superpuissance. Et vous savez que le roi Ézéchias avait cessé de payer les tributs que son père avait accepté de payer à l'Assyrie. Et il était tenté de s'allier avec Babylone pour être protégé du danger assyrien. Et ce roi, donc, de Babylone, envoie une lettre et un petit cadeau, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, au roi Ézéchias. Et il y a des envoyés, et lisons le verset 13, « Ézéchias donna audience aux envoyés qui apporte ce cadeau, et leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. » Ézéchias reçoit ses envoyés du roi de Babylone, et puis, sans beaucoup de jugeote, sans beaucoup de discernement, il entreprend de leur montrer tous ses secrets. On peut penser que peut-être c'était parce qu'il, voulant être l'allié de Babylone contre la Syrie, il voulait leur montrer ce qu'il avait à amener de son côté, qu'est-ce qu'il avait comme ressources qui ferait qu'il serait un candidat sérieux à être l'allié de Babylone. Et il montre tout ce qu'il peut montrer. On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est aussi l'orgueil qui le fait agir ainsi. Pourquoi ? Parce que il montre ses choses de prix, tout son arsenal, tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il leur fit voir sa maison, tous ses domaines. Il leur montre tout ce qu'il a, lui, sans donner la gloire à Dieu. Et en fait, ce n'était pas très malin. Ce serait, aujourd'hui, ça ne serait pas une chose très maligne que pour le président de la République d'aller montrer tous les secrets de la défense à des ennemis potentiels et de révéler où se trouvent les choses de valeur, l'argent et l'or, les aromates, l'huile précieuse, toute son armure, tout son arsenal, toutes ses armes, tous ses trésors. Et il y est bien insisté, il n'a rien laissé de côté. Il a tout montré, absolument tout. Et encore une fois, il oublie de dire que tous ces trésors, toutes ces choses, c'est Dieu qui les lui a confiées, c'est Dieu qui les a réalisées. Alors c'est facile de pointer le doigt vers Ézéchias en disant « quel orgueil !» Mais qu'en est-il de notre vie? C'est une tendance qui fait partie de notre vieille nature, à essayer de nous glorifier de choses qui seraient dues à nos mérites, à notre propre qualité, à notre propre capacité, à notre propre travail. Et je sais que tous, si on avait un sondage avec des QCM, des questions à choix multiples, à qui devez-vous rendre la gloire? Moi, Dieu. Oui, c'est Dieu, on le sait. On sait qu'on doit rendre gloire à Dieu. Mais est-ce que des fois, on n'oublie pas que c'est entièrement sa gloire et qu'on essaye d'attirer un peu de gloire vers nous? Et on est les champions de la fausse modestie. Oh non, c'est rien. Grâce à Dieu, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela. On a dit grâce à Dieu, donc après on se lance dans notre propre panégyrique, dans notre propre éloge de tout ce qu'on a pu accomplir. Et c'est ce qu'il fait. Et quelqu'un a dit que si on prend un peu de la gloire de Dieu, lui n'a plus 100% de gloire. Et il veut 100% de gloire. Parce que lui seul est digne d'être glorifié. On le chante, on le lit dans la parole, mais on aimerait bien des fois être un peu bénéficiaire de tous ces compliments que l'on fait à Dieu. Et c'est très subtil. Et je crois qu'il faut inviter l'Esprit Saint à nous montrer ce genre d'orgueil souvent très subtil, mais qui nous fait tellement de bien comme péché. Ça fait du bien qu'on nous tape sur l'épaule, qu'on nous dise « c'est bien fait, c'est bien joué, bravo ». Mais en fait, la Bible dit très simplement « qu'est-ce que nous avons reçu qui ne nous ait pas été donné par Dieu ?» Que ce soit notre apparence physique, si on a la chance d'être beau, que ce soit notre intelligence, si on a la chance d'avoir un QI élevé, que ce soit toutes nos ressources, notre richesse, si on a eu la chance de se retrouver riche, soit par héritage, soit par des talents dans le monde du business. Tout ce que nous avons nous a été donné par Dieu. Jacques va même plus loin dans 1,17, tout cadeau, tout ce qui est beau et agréable a été donné par le Dieu, le Père, en qui il n'y a ni ombre de changement, ni variation. Et là, on voit comment le roi tombe dans l'orgueil, et Ésaïe, verset 16, l'appelle et lui dit : voici ce que dit l'Éternel. On peut penser que lorsque Isaïe lui dit qu'il va lui donner la parole de l'Éternel, on peut espérer que Ézéchias se dit : oulala, je vais me faire remonter les bretelles. C'était vraiment pas malin, parce que de révéler ainsi toutes ses capacités de résister à sa richesse, ses armes, en fait sa capacité à résister à des ennemis, parce que dans quelques années, Babylone allait devenir la superpuissance et Jérusalem, Juda, était au menu de cette nouvelle superpuissance. Donc en fait, il donnait des armes, des connaissances, de l'intelligence. Ils n'avaient même pas besoin d'envoyer des agents secrets. Ils savaient où se trouvait l'or. S'ils voulaient de l'or, ils venaient le chercher à tel endroit, à tel lieu. Ils savaient qu'ils avaient telles armes. Donc ils pouvaient déjouer tous les plans. Et quelque part, on peut espérer que Dieu avait fait comprendre à Ézéchias que c'était vraiment stupide, qu'il avait péché par orgueil. Alors c'est vrai, on dit c'est le roi, il avait un empire. Mais même moi, des fois, ce passage m'a interpellé lorsque nous avons des visiteurs. Et j'aime bien, s'ils me disent « Oh, vous avez des beaux locaux », je dis « Oh, mais vous n'avez pas tout vu encore, je les emmène au premier étage ». Et des fois, je me dis, mais est-ce que je suis en train de m'enorgueillir ? Encore une fois, on a des locaux qui sont vraiment adéquats, pour lesquels on remercie le Seigneur. Il a fait des miracles pour nous permettre d'acquérir ces locaux. Il nous en a confié la gestion. Mais on peut dire, ah, mais attendez, on a construit, on a fait ça aussi, on a refait toute l'électricité. Oh ! C'est formidable, qu'est-ce que vous travaillez bien sur votre local. Donc, pour vous dire, et je cherche pas à dire que ça n'arrive pas dans votre vie, mais laissez l'Esprit Saint justement vous montrer les domaines de votre vie où vous acceptez les compliments en volant de la gloire qui revient à Dieu. Je crois que si on est honnêtes tous, on va voir qu'on a toujours un deuxième étage à montrer, et la gloire revient à Dieu encore une fois. Alors, verset 17, « Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. » Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Il ajouta, il y aura paix et sécurité pendant ma vie, n'est-ce pas? Et là, on est profondément choqué par cette réflexion d'Ézéchias. On peut tempérer cela un peu en lisant les autres passages et dire qu'en fait il avait à cœur son peuple et il était content que ça n'arrive pas tout de suite. Mais le prophète, Dieu par le prophète, lui dit que ses propres fils qui vont arriver, pour l'instant il n'avait pas d'héritier, ou Manassé était très jeune, certains pensent qu'il n'était pas encore né ni conçu, ce qui expliquerait le jugement qu'on peut porter sur Ézéchias, on verra. Tes enfants, tes garçons vont être émasculés et serviront dans le palais du roi de Babylone à qui tu as montré toutes tes richesses et toutes tes ressources. Alors les eunuques, ça pouvait être soit des esclaves émasculés, castrés, qui s'occupait des harems du roi. Ça pouvait aussi être un titre honorifique, parce que il ne représentait plus le danger de vouloir établir une autre dynastie, donc ils avaient accès aux fonctions les plus hautes, c'était des hauts fonctionnaires. On dirait aujourd'hui qu'ils faisaient partie du gouvernement. C'était des ministres. Alors n'allez pas dire aux ministres qu'ils sont des eunuques, ils le prendraient très mal sans doute. Mais devant ces nouvelles, la ville va tomber. On va vous emmener en exil. Il ne restera plus rien de ce que vous avez maintenant, de Jérusalem, du temple. Et devant cette chose terrible, on est surpris par cette réponse du verset 19. Mais pour moi, ça sera après moi le déluge. Hein. Bon, alors, ça va, c'est pas de problème, j'accepte cette parole. C'est vrai que c'est un peu énorme. Mais c'est un peu ce que nous faisons en tant que nation. Lorsque nous insistons pour qu'on conserve notre système de sécurité sociale, lorsque on vit à crédit, qu'on veut renoncer à aucun de nos acquis, qu'on fait des manifestations, en vouant ainsi nos enfants et leurs enfants, nos petits-enfants, à des graves difficultés économiques. Nous aussi, on dit, après nous le déluge, tant que je peux toucher ma retraite et qu'on ne touche pas à mon pouvoir d'achat, après c'est pas grave si on continue à emprunter, si on continue à s'endetter, on ne sera plus là, débrouillez-vous. Et donc, ce qui nous paraît si terrible dans la parole d'Ézéchias, en fait, on est pas loin de faire la même chose. Le reste, verset 20, le reste des actes d'Ézéchias, toute sa vaillance, et comment il fit le bassin et l'aqueduc et amena l'eau dans la ville, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Ézéchias se coucha avec ses pères, son fils Manassé régna à sa place. Dieu a donné 15 ans de plus apparemment à Ézéchias. Qu'est-ce qu'en a fait Ézéchias? Il a préparé la démise, la fin du royaume de Juda en montrant aux Babyloniens tous ses secrets. Il a engendré un fils, Manassé, qui va être le pire des rois. Et ça fait poser la question de la volonté de Dieu. Dieu est souverain et en même temps il nous laisse le choix. Nous avons un libre choix et on a l'impression dans ce passage qu'on peut influencer sur la volonté de Dieu. Et il y a le concept de la volonté parfaite de Dieu, puis de la volonté permissible de Dieu. Il y a des choses, c'est bien en plein dessus, c'est la volonté de Dieu exacte. Et puis il y a une zone un peu grise autour qui fait qu'on peut se promener sans être trop loin de la volonté de Dieu. C'est un débat de savoir quelle est l'extrémité de la limite, plus exactement, de cette volonté de Dieu, que Dieu contrôle toute chose. Est-ce qu'il laisse une liberté à ses créatures dans un domaine précis? On sait qu'il nous laisse le choix d'aller vers lui ou pas, de le rejeter, mais c'est un sujet qu'il est bon de méditer avec la parole, avec le Saint-Esprit vous montrant les choses. Il y a des partis pris, il y a des doctrines qui penche d'un côté ou de l'autre. Je crois que la vérité, elle est toujours entre les deux, conforme à la parole de Dieu. Si on voit la volonté parfaite d'un côté et on voit la liberté de l'homme, aussi explicité, expliqué, annoncé dans la parole à des endroits différents, on n'est pas nécessairement, on n'est pas invité par Dieu à essayer de tout réconcilier, à tout comprendre avec un système systématique, avec une approche systématique de notre théologie. C'est bon des fois de dire, il y a des vérités que je n'arrive pas à réconcilier, mais je crois à ces deux vérités, la liberté de l'homme, la volonté de Dieu. Toujours est-il que il semble que si Ézéchias avait accepté de mourir, il aurait peut-être évité des catastrophes à Juda, mais ça aussi on n'en est pas, même pas sûr. Une chose est sûre, c'est qu'il est resté un des grands rois d'Israël et que notamment il a construit un tunnel qui amenait l'eau de la source de Guion au bassin de Siloé à l'intérieur de Jérusalem. Jérusalem, si vous y êtes allé ou si vous pensez y aller un jour, j'espère qu'on aura l'occasion d'organiser un voyage prochainement. C'est une place, un endroit qui est facile à défendre parce que c'est sur une colline. C'était une ville bien facile, relativement facile à protéger en cas de siège parce qu'on pouvait dominer les ennemis et les empêcher d'attaquer. Par contre, le talon d'Achille, c'était l'approvisionnement en eau. C'est bien beau de rester des mois, des années assiégés, mais sans eau, on ne peut pas durer. Et donc, lorsqu'on va à Jérusalem maintenant, j'ai eu l'occasion de le faire, on peut emprunter le tunnel que Ézéchias a fait construire pour relier une source qui était un peu en dehors des murailles. Ils ont ensuite bâti des murailles pour protéger cette source et ils ont fait un tunnel d'une longueur de 533 mètres dans le roc, dans la roche. Deux équipes sont parties du bassin de Siloé, l'autre de la source, et ils ont travaillé. Ils ont le tunnel, lorsqu'on l'emprunte, on peut l'emprunter, il permet le passage d'un homme. Des fois, il faut se courber, il ne faut pas être claustrophobique, c'est noir. Vous avez votre lampe de poche, vous êtes dans l'eau jusqu'à la ceinture, mais vous pouvez passer dans ce tunnel. Et c'est, pour moi, c'était absolument fantastique de voir la véracité de la parole de Dieu. Ce n'est pas des légendes, ce n'est pas des histoires, encore une fois, c'est de la réalité qu'on peut toucher. Il y a même une inscription qui a été retrouvée, où quand les deux équipes se sont rencontrées, ils se sont entendus crier, ils étaient à quelques mètres les uns des autres en creusant leur galerie. Et ce tunnel existe toujours et l'eau circule toujours. Et ça, c'était un des grands accomplissements. Ça avait permis de résister à la première invasion. On pense que ça a été bâti en 701 avant Jésus-Christ. Ça a été découvert en 1838 par un dénommé Edward Robinson, puis nettoyé en 1911 par une autre mission. Et maintenant, vous pouvez l'emprunter et voir de vous-même que la Bible ne raconte pas des histoires. Et il resta donc dans l'histoire, Ézéchias reste un grand roi, mais on voit qu'il n'a... Il a été un homme orgueilleux, C'était un homme, même dans sa grande foi, il était incrédule, il voulait des signes. Et surtout, on voit que c'est son orgueil qui a causé sa perte. On est surpris de voir aussi l'amour et la condescendance de Dieu pour lui proposer un signe. Et donc, ça nous rappelle aussi qu'on peut, très bien commencer, mais on peut mal finir. Et notre prière, et j'en suis sûr, votre prière, c'est que vous voulez commencer fort et finir fort. Amen.